que c'est devenu vraiment systématique dans les médias. On explique les tueries par les jeux vidéo. Mohamed Merah, c'est la faute des jeux vidéo. Breivik et les attentats en Norvège, c'est la faute des jeux vidéo.
Vous préconisez l'interdiction des jeux vidéo violents, avilissant la personne humaine.
We must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace.
C'est une antienne aussi vieille que la massification des jeux vidéo à la fin des années 80 et que l'on entend ressortir à chaque tuerie de masse de la part d'un adolescent souvent masculin et souvent aux États-Unis. Les jeux vidéo rendraient les jeunes violents, les pousseraient au passage à l'acte ou à tout le moins les rendraient agressifs. Si ce n'est la violence et l'agressivité, les rendraient accros, voire décérébrés et mettraient en péril leur intelligence, leur faculté de concentration, leur rapport au travail, au sommeil. Bref, les jeux vidéo seraient le mal incarné. Bonjour Vanessa Lalo.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste des pratiques numériques. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents ?
Ça n'a jamais été prouvé par des études scientifiques. On a pu au contraire trouver des corrélations de baisse de criminalité suite aux sorties des différents opus de jeux violents. Alors, on peut remettre en question, bien sûr, les résultats de ce type de recherche, mais ce qu'on pourrait en tout cas au moins dire, c'est que quand les gens sont chez eux en train de jouer aux jeux vidéo, ils ne sont pas en train de commettre des crimes dans la rue. Donc, on a pu voir depuis les années 90 qu'il y a une baisse de la criminalité aux États-Unis et que, de toute façon, le jeu vidéo ne rend pas violent. Par contre, les personnes qui ont des comportements plutôt violents au quotidien, peuvent être sujettes à aller consommer plus ce type de médias violents. Mais en tout cas, on n'a pas pu faire de corrélation significative. Après, ce qu'on a pu noter par contre, c'est qu'une certaine agressivité pourrait être produite par les jeux vidéo, mais non pas par les jeux vidéo violents, plus par les jeux vidéo qui sont compétitifs. Mais il suffit de voir quand on joue en famille à Mario Kart et qu'on a envie de dépasser son papa ou sa maman et qu'on veut à peu près tuer l'autre en allant passer devant, finalement, ça va créer une sorte d'agressivité latente, voilà. Mais c'est pas de la violence à proprement parler, en tout cas clairement pas, qui ne produirait surtout pas de tuerie de masse, en tout cas en conséquence.
On voit pourtant dans les grands titres des médias souvent, eh bien, on pense notamment à Anders Breivik en Norvège qui se sont entraînés sur Call of Duty. En tout cas, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Alors pourquoi est-ce que il y a à ce point-là cette volonté médiatique de tirer un lien entre ces jeux vidéo qui peuvent de facto être très violents, de tir à la première personne où il faut tuer le maximum de personnes avec souvent des effets très sanglants, et le passage à l'acte?
Alors, dans le cas de Breivik, ce qu'il voulait voir, c'était le flux de sortie des personnes sur un endroit confiné. Donc ça n'a rien à voir. En fait, c'était plus stratégique, le déplacement dans l'espace qui l'intéressait et qu'il aurait pu essayer de mettre à l'épreuve, de simuler à travers n'importe quel autre média. Après, c'est sûr que le jeu vidéo permet cette simulation-là. Maintenant, il y a une méconnaissance de la part de beaucoup de personnes concernant les jeux vidéo qui font qu'on a tendance à faire porter le poids du jeu vidéo dès qu'effectivement on voit une tuerie quelque part, on se dit c'est de la faute au jeu vidéo. À chaque génération, on a eu un coupable idéal. Au XVIIe siècle, on a voulu interdire les livres à l'époque de Montesquieu. Puis après, ça a été le rock'n'roll dans les années plus récentes, les mangas, les jeux de rôle. On a besoin finalement d'aller faire porter le chapeau à un média. Faudrait peut-être qu'on apprenne à un peu plus les connaître.
Quand on parle de jeux vidéo et de lien avec la violence, on pense à ces jeux et donc à ces tireurs à la première personne. Mais en fait, le jeu vidéo, c'est une réalité beaucoup plus vaste que ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a une sorte de sociologie du jeu vidéo ?
Oui, bien sûr. On voit qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des joueurs est de 34 ans. Les femmes sont 48% à être joueuses. Donc, on voit finalement que la sociologie est bien plus différente que celle qu'on a tendance à nous mettre sous le nez. Est-ce que Candy Crush rend plus violent qu'un jeu à la première personne ? Il faudrait peut-être faire une recherche pour le savoir.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, on constate effectivement une certaine forme de pratique d'abus du jeu vidéo qui peut avoir une forme de nuisance sur la vie sociale ?
En ce qui concerne l'attention, la concentration, au contraire, ce qu'on peut prouver, c'est que des enfants, par exemple, hyperactifs, vont avoir tendance à se concentrer bien plus longtemps à l'aide d'un jeu vidéo. Donc, faire baisser la concentration, pareil, ça reste à prouver. En ce qui concerne le sommeil, on a pu démontrer aussi par les recherches que finalement, les personnes insomniaques ont tendance à utiliser plus d'écran. Et c'est pas l'écran qui créerait une problématique de sommeil. Quel impact ça peut avoir? Alors, on voit bien qu'il y a un problème avec la lumière bleue qui crée un retard sur l'endormissement parce que ça empêche ou ça ralentit la sécrétion de mélatonine, la surexcitation aussi neuronale quand on est en train de jouer ou de pratiquer un écran va aussi potentiellement induire quelque chose de peut-être avoir envie de rester plus longtemps sur son écran. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui a été prouvé, c'est qu'effectivement, les personnes qui ont des problèmes de sommeil vont avoir tendance à se greffer un écran et pas l'inverse.
Est-ce qu'il a été établi scientifiquement une sorte de seuil critique à partir du duquel on peut commencer à parler d'un comportement problématique ou d'un rapport problématique, voire d'addiction.
Moi, je préfère parler de pratique excessive parce que ça permet finalement de faire consensus avec tous les praticiens, qu'on soit d'accord ou pas. On voit bien qu'il peut y avoir des excès. L'Organisation mondiale de la santé a statué un gaming disorder, donc un trouble du jeu vidéo, que nous, on traduit en français par addiction au jeu vidéo, mais la vraie traduction, c'est trouble. Pour qu'il y ait un trouble avéré, il faut effectivement qu'il y ait un tel surinvestissement du jeu, que ce soit au détriment de la vie affective, sociale, scolaire, etc., et qu'on s'enferme pendant 12 mois au moins dans ces troubles. 12 mois, finalement, la plupart des personnes qui viennent en consultation ne les atteignent pas. Alors après, effectivement, j'ai des collègues qui reçoivent en hospitalier notamment des personnes qui sont vraiment dans des situations très problématiques, qui ont besoin d'être hospitalisées. Là, on voit que souvent, il y a des comorbidités de santé mentale, des problèmes psychiatriques et d'autres addictions, notamment les consommations d'alcool et de cannabis qui vont souvent avec des comportements très excessifs. La plupart des personnes n'ont pas de problème avec le jeu vidéo et au contraire, on voit bien que ça développe les compétences psychosociales puisqu'on est en lien les uns avec les autres, que ça permet de gagner en estime de soi et ferait baisser l'agressivité ou la violence parce qu'on a une meilleure estime de soi.
Il y a quelques chiffres que je vous soumets, que j'ai trouvé dans la littérature scientifique. On dit qu'il y a une dose critique de 30 heures de jeux vidéo par semaine qui, à partir de là, commencerait à rentrer dans le domaine du problématique. Ça a un sens pour vous ?
Pour moi, ça n'a aucun sens. On n'est pas comme sur une substance psychoactive comme avec l'alcool ou la cocaïne où on pourrait mesurer vraiment à quel endroit il y a une réponse physiologique. Certains peuvent jouer une heure par semaine et être très mal, voire complètement addict parce que justement, ils vont y penser toute la semaine et enfin, ils vont tout investir dans leur rapport au jeu. D'autres peuvent jouer 12 heures par jour comme les pro-gamers, les joueurs professionnels coréens par exemple. Ça pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est de rester toute la journée devant un écran, de pas faire de sport du tout, d'avoir aucune activité sportive. Et peut-être qu'on peut, en termes de prévention, pousser les jeunes et les moins jeunes à simplement faire un peu plus d'activité physique, faire bouger leurs muscles oculaires de temps à autre pour ne pas risquer certaines myopies liées à un problème de distance d'écran.
Qu'est-ce qu'il faut penser de ces éditeurs de jeux qui utilisent certaines notions de neurosciences pour engager au maximum l'attention et la disponibilité du joueur. Alors on pense à des jeux qu'on appelle free-to-play où on donne des récompenses et on sait que ça peut avoir une influence sur des joueurs un peu plus jeunes qui sont un peu moins résistants.
Alors c'est ce qu'on appelle la captologie. Le but est effectivement de faire en sorte que les personnes restent le plus longtemps possible pour continuer à déverser leurs données personnelles qui vont ensuite être vendues à des fins commerciales. Là on est dans le domaine du marketing. Pour l'instant on manque de recul d'un point de vue psychologique sur les individus, quel impact réel ça a sur les individus. On n'en sait pour l'instant pas grand-chose non plus. Mais on voit qu'il y a cette espèce de captologie-là, qu'on peut appeler économie de l'attention, mais ça reste controversé, qui pousse effectivement les personnes à continuer à jouer avec des mécanismes de gratification, avec le flow qui est une sorte d'équilibre entre maîtrise, frustration, performance et challenge, et qui nous permet finalement à chaque fois d'avoir envie de se dépasser, de continuer. Quand on voit des jeux comme Candy Crush ou Fortnite, qui aujourd'hui créent des guerres dans les foyers en ce moment, effectivement le but c'est d'aller dépenser de l'argent, parce qu'on fait en sorte que si jamais vous n'avez pas acheté cet objet-là en temps et en heure, vous ne l'aurez plus jamais, et du coup on joue sur cette espèce de fear of missing out, on risque de ne plus jamais pouvoir retrouver cet objet-là. Plus après, effectivement, l'enjeu social. Ils ont réussi à pousser les jeunes à aller dépenser de l'argent parce que si on n'a pas mis au moins une fois de l'argent dans son avatar, on apparaîtra systématiquement avec un avatar neuf et donc on va se faire appeler débutant par les autres de la communauté. Donc on joue sur toutes ces cordes sensibles. Il serait mieux de se parler les uns et les autres et de discuter avec les enfants plutôt que de tout le temps mettre en avant la problématique de troubles d'addiction, d'isolement, de violence qui finalement sont des faux problèmes en ce qui concerne le jeu vidéo. Et de faire la prévention autour de la dépense d'argent qui, elle, peut être vraiment un problème en termes de comorbidité ou en tout cas un vrai problème tout court.
Merci beaucoup Vanessa Lalo, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne spécialiste des pratiques numériques.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.